Vous écoutez RTL.
Merci à toutes d'être avec nous ce soir encore. New Star Flash, Laser Light, Action Club. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse.
La curiosité est un vilain défaut.
Putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs. Mais je pète les plombs.
Dans ta Benz, 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 gang. Quand tu boites, ton bon passe à mon gang, gang, gang. Laisse pas son son son. Dans ta Benz, Benz, Benz.
Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
I am Stomy Bugsy, Ménélic, Ministère, Amer, Passy, Doc Génico, ces noms vous disent sans doute quelque chose. Ce sont des artistes cultes du rap des années 90 et certains d'entre eux vont partir en tournée avec l'âge d'or du rap français un peu partout en France. Et ben, comme eux, nous, dans la curiosité, on va retracer l'histoire du hip-hop avec notre invité journaliste et spécialiste du rap, Thomas Gettner. Pour commencer, des définitions. Tiens, le hip-hop, c'est quoi et en quoi c'est différent du rap? Peut-être qu'il n'y a pas de différence d'ailleurs.
Alors si, alors souvent quand les non-initiés considèrent le hip-hop comme le rap, en fait le hip-hop c'est un mouvement artistique qui est né aux États-Unis dans les années 70. Et en fait le hip-hop ça regroupe quatre disciplines, dont le rap, justement qui est la partie chantée. Il y a la danse, il y a le graffiti et le DJing. Donc le hip-hop, ça regroupe en fait ces quatre...
DJing, c'est passer les disques, c'est le DJ.
À l'époque, c'est le DJ, c'est ceux qui scratchaient sur les
vinyles. C'était pas encore des stars.
Voilà, c'était sur du vinyle à l'époque. Ouais. Et donc, c'est les quatre disciplines qui composent le hip-hop.
Le rap et la culture hip-hop, est-ce que c'est des disciplines qui ont eu du mal à s'imposer en France, qui ont mis du temps à arriver par rapport aux États-Unis, par exemple?
En France, oui, ça a eu du mal. Au début, c'était vraiment très très confidentiel. Comme d'habitude, ça a plutôt explosé aux États-Unis avec le morceau que tout le monde connaît, Sugar Hill Gang, de Grandmaster Flash de Message.
Après, oula, moi je le connais pas. Hein.
Moi non plus, mais c'est pas grave. On n'est pas super français.
Mais si on l'a pas sous la main, mais si on l'a, on reconnaîtrait.
Je l'ai forcément écouté déjà. Mais bon.
Et ça, c'est les années 80.
C'est la fin des années 60. Ouais, c'est fin des années 70.
Ah oui, carrément.
80. Et en France, oui, en France, c'était un terrain complètement vague. Il y avait tout était à faire, quoi. Jusqu'à l'arrivée d'une fameuse émission de télé.
Ah oui, vous racontez ça dans votre livre Hip Hop, le rap français des années 90, qui est publié chez Fedgen Edition. Alors cette émission, pour le coup, celle-là, je m'en souviens.
Moi aussi.
Sidney, c'était l'animateur, c'est ça?
Voilà, c'était Sidney.
C'est quoi son nom complet?
Alors, je crois qu'il s'appelle Patrick Dutheil.
Ah oui, d'accord, voilà. Ok. Et il va être le premier à lancer quoi? D'abord, une émission de radio?
Alors voilà, au début, pour remonter un peu au commencement de cette émission qui va s'appeler Hip Hop en 84, en fait, il faut remonter un petit peu avant. Mm-hmm. À cette époque, en fait, ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est que celle qui va un peu lancer Ciné, c'est une actrice qui s'appelle Clémentine Sénarier.
Ah oui.
Qui était la première, l'une des premières présentatrices sur Radio 7 et qui va un jour soumettre l'idée à Marie-France Boyère, qui est la patronne de Radio 7, qui veut à ce moment-là créer une émission musicale. Va lui dire qu'elle connaît quelqu'un qui s'appelle Sidney, qui joue dans des soirées dans un club qui s'appelle l'Emeraude à Paris. Elle lui dit d'aller voir parce que, à mon avis, il y a de quoi faire avec cette personne.
Donc il est quoi? Il est plutôt danseur, plutôt DJ?
Il est DJ, il passe de la musique, surtout de la funk, de la soul, de la black music. Et elle lui dit d'aller faire un tour dans cette boîte et de lui proposer l'idée justement de venir sur Radio 7 animer une émission musicale.
Donc ça va marcher en radio et puis ensuite ça va débarquer aussi en télévision, 1984 sur TF1, s'il vous plaît, hip-hop. Ça me rappelle des souvenirs, à chipper.
Mais moi aussi, je me rappelle, c'est
pas l'école. Vous étiez bébé, vous.
Non, mais vous rigolez, en 84.
Bah oui, en 84,
j'avais
6
ans, 7 ans. Mais je me rappelle, j'essayais de faire les chorégraphies. Il faisait un peu de smurf aussi dans cette émission,
ouais,
non?
Il faisait du smurf, il tournait sur la tête.
Ça existe plus, ça, le smurf, là, quand on fait des mouvements avec
pareil,
les.
C'est une composante de.
Les bras tout mous, là.
Il y avait plusieurs mouvements. D'ailleurs, Sidney, à l'époque, s'amusait à traduire. Parce qu'il n'avait pas le droit dans cette émission hip-hop, il n'avait pas le droit de parler en anglais. Donc il essayait de retranscrire en français les mouvements. Donc le moonwalk, par exemple, ça donnait la marche arrière.
Ouais.
Pour Michael Jackson.
Justement, c'était un gimmick, c'était la marche arrière, tu peux le faire. Et Sidney, il traduisait comme ça tous les pas de danse qu'il ne pouvait pas.
On s'en souvient tous parce que c'était un succès. Ça a très bien marché, cette émission sur
TF1.
Oui,
ça a très bien marché. Alors, bizarrement, ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu un écho retentissant, puisque c'était après, en plus, sur TF1, sur une grosse chaîne, de voir des gens qui débarquent. dans une émission de télé en faisant de la danse. Et puis surtout dans cette émission, ce qui est important, c'est que Sidney a réussi à faire venir quand même des stars monumentales, quoi. Pour une petite émission comme ça, il a réussi à faire venir Madonna. Il y avait Madonna qui est venue dans l'émission chanter Holidays. Enfin, on revoit la vidéo, si vous allez sur YouTube, vous voyez Madonna chanter Holidays à 14h20 dimanche. Enfin, c'est juste
génial. En blouson, en jean, un peu blouson, avec un bandana dans les cheveux.
Il y a eu même Herbie Hancock qui est venu. On est en 84 quand même, c'est juste hallucinant, quoi.
Alors ça, c'est une émission de télévision, hip-hop, et puis il y a le premier rappeur français qui va débarquer et tout chambouler, c'est MC Solar.
MC Solar, ça va arriver, mais alors bien plus tard. Ça va arriver, on va dire, en 1990-91. Donc là, on fait un petit bond en avant.
Ça veut dire qu'entre les deux, il n'y a pas vraiment eu de chanteur de rap français.
Il y a quelques sorties. Il y a un album, notamment d'artistes qui s'appelaient Johnny Go et Destroy Man, qui vont sortir un maxi.
Mais ça reste confidentiel. Alors que MC Solar, c'est le rap grand public.
MC Solar, là, pour le coup, il va frapper un gros coup avec un morceau que tout le monde l'a, pour le coup, que vous connaissez, que tout le monde connaît.
Tout a commencé là-bas, dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une patte ma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit
MC Solar, viens là que je te donne du réconfort.
J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se porte? Ces hématomes étaient plus gros que les seins de Samantha Fox. Il m'a fait bouge de là.
Ah, il faut se souvenir des seins de Samantha Fox aussi. Bon, on va pas aller jusqu'au terminus.
Vous êtes toujours sur RTL, de la ligne, dans la curiosité. Bon, j'espère bien, jusqu'à 22h.
C'est super, bouge de là. Il faut raconter l'histoire de cette chanson et de ce premier clip, c'est ça? C'est une émission de télé qui permet au clip de voir le jour?
Oui, parce qu'en fait, à l'époque, bon, il n'y avait pas de clip. En plus, du rap, il y en avait encore moins. Donc, en fait, il y avait une émission qui s'appelait Rapline, qui était animée par Olivier Cachin, qui est devenu la sommité dans le rap français.
Qu'on a déjà reçu à la curiosité pour plusieurs biographie d'artiste d'ailleurs. Ouais.
Et donc dans cette émission, il allait à la rencontre de tous les rappeurs en herbe qui essayaient dans leur coin de percer.
Percer,
voilà.
Et il repère MC Solar.
Et MC Solar donc qui est interviewé dans le cadre de cette émission, et à la fin il propose toujours de mettre en image, de scénariser un petit peu les paroles de cette chanson. Donc bouge de là a été filmé par les caméras de Rapline pour la première fois. Il y a la vidéo aussi qui tourne, on les voit. En fait, c'est pas un clip, ça a été fait avec des bouts de ficelle. On voit MC Solar dans une voiture qui rappe en playback, quoi. Mais c'est assez surréaliste. Mais
après MC Solar, on a fait des petits bonds dans le temps. Un autre groupe va entrer dans la brèche du hip-hop, c'est NTM.
Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz 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 girl, quand tu bailles ton bon passe avant gang gang gang. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz 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 girl, quand tu bailles.
Mercedes Benz et Joe Star et Cool Shen, leur duo fait l'effet d'une bombe. D'ailleurs, quand on l'écoute là comme ça quelques années après, on se dit waouh.
D'accord, oui,
ça dépote un peu.
Bon, alors ma Benz c'est un peu plein, mais quand ils ont commencé, c'est vrai que quand on arrive dans la musique et qu'on s'appelle NTM, en sachant ce que ça veut dire, forcément ça dénote un peu.
Ça veut dire nique ta mère, pour être clair.
Pour être clair, ils l'ont assumé dès le départ et ils l'assument encore toujours. Et donc pour percer, c'est un peu compliqué.
C'est des bad boys? Il joue sur. C'est le rap bad boy, parce que MC Solar, il est chouette, oui, il est sympa, c'est un peu le genre idéal.
On va dire que c'est le.
Enfin, au début en tout cas.
Quoique maintenant, Joe Star
pourrait. Il déclame des discours politiques.
Et c'est un formidable acteur.
C'est un très bon acteur.
Comme donc, quoi, ça évolue. Mène à tout.
Ouais, exactement.
Vous écoutez RTL.
RTL. Place de trêve qui pique ton cœur. Place de trêve qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline.
La curiosité est un vilain défaut. Ma
mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris.
Tu es la seule qui marche, je te le dis sans faille. C'est cool, bébé, sinon je te dirai bye bye.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Tu es la seule qui marche, je te le dis sans faille.
C'est un phénomène social, musical, qui dure depuis plus de 3 décennies. Le hip-hop, avec toutes ses composantes. On revient sur cette culture avec notre invité, spécialiste du rap, journaliste Thomas Gettner. Alors, je voudrais qu'on parle d'IAM. Comment on dit déjà ?
IAM.
IAM, merci.
Bon, c'est tu veux côté. Danser le Mia, Thomas ?
Qu'est-ce que j'avais fait une fois comme prononciation improbable ?
La meilleure que vous avez faite, c'est quand même à l'antenne. J'ai eu les seuls. Hein. Maître Gims. Au lieu de Maître Gims.
Vous n'arrivez pas à le faire.
Oui, c'est tellement c'est improbable. Énorme.
Mais en français,
donc, c'est pas un coach sportif.
GI, hein. Ça fait J, donc c'est normal. Donc, j'avais dit Maître Gims. Donc, IAM, en fait, les 20 ans de leur album phare qui a vraiment marqué une date dans l'histoire du rap, l'école du micro d'argent. Qu'est-ce qui se passe lors de l'enregistrement de cet album alors que c'est presque terminé?
L'école du micro d'argent, c'est quand même un album qui a été vendu à 1,6 million d'exemplaires. Genre, wow. Ça en ferait rêver plus d'un, je pense, même.
Bien sûr. Les courants musicaux. Voilà. Hein.
L'histoire sur cet album, c'est qu'en fait, ils ont enregistré 4 mois l'album à New York avec leurs deux anciens producteurs qui étaient les producteurs de l'album d'avant qui était En Bois Lumière. Et ils rentrent à Paris en fait et ils réécoutent les bandes et ils trouvent que le son est trop en fait trop lisse, trop c'est pas assez martial, c'est pas assez ça leur convient pas quoi.
Ouais.
Donc ils décident, ils se parlent entre eux je pense et ils décident, à un moment ils se disent tiens on va peut-être quand même appeler la maison de disque, on va leur dire que ça va pas du tout, qu'on peut pas sortir l'album comme ça, et ils préviennent la maison de disque, ils disent on est obligé de le refaire l'album parce que ça nous va pas, ça convient pas à l'état d'esprit qu'on voulait imprimer à ce disque. La maison de disque accepte, elle est quand même sympathique.
Ouais.
Et elle va quand même bien, elle a bien fait. Et donc, ils vont dégoter un autre producteur qui s'appelle Prince Charles Alexander, qui a notamment collaboré avec Notorious B.I.G., qui n'est pas le plus mauvais des rappeurs américains. Mm-hmm. Et donc, il réenregistre tous les morceaux. Et de là sort donc l'école du micro d'argent, qui va être le plus gros carton du rap des années 90.
Et est-ce que c'est dans cet album qu'on retrouve le Mia ?
Non, le Mia c'était dans l'album d'avant.
Et donc c'est avec ça qu'ils se font repérer, les IAM.
Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle à nos trois corps en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des buloni. Dès qu'il passait, caméo, Midnight Star. SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient.
Le Mia, alors elle naît comment cette chanson, Thomas Gettner?
Le Mia d'ailleurs, au départ c'est un morceau qui figurait normalement sur l'album Ombre et Lumière, donc qui est, ouais, d'IAM. Alors au départ, il y avait un single qui était choisi qui s'appelait Harley Davidson pour cet album. Le problème, c'est que IAM n'obtient pas les ayants droit d'Harley Davidson, qui était composé par Serge Gainsbourg et interprété par Brigitte Bardot.
Ah, vous voulez faire une reprise en fait.
Dont on parlait à l'instant, hein, dans nos histoires.
En fait, dans cette chanson, le refrain reprenait Je n'ai besoin de personne à Harley Davidson. Ouais. Et en fait, les endroits n'ont pas voulu que IAM sorte ce single. Donc la maison de disque, c'est en fait c'est le directeur artistique de l'époque qui s'appelle Luca Minchio, qui est un Italien, qui dit alors pourquoi on ne devait pas sortir le Mia avec son accent comme dit Akhenaton. Et donc il décide de sortir le Mia en single. Mais par contre, il décide d'aller jusqu'au bout du délire, comme m'a raconté Akhenaton à l'époque.
Oui.
Il décide de réarranger le morceau et de mettre sur ce morceau un sample de George Benson qui est Give Me the Night, et d'aller à fond dans le délire.
Elle est kitsch cette chanson, elle est super ringarde.
Les kékés marseillais,
super génial.
Qui vont en boîte, qui dansent sur de la funk. Ouais. Et donc voilà, ce morceau arrive et c'est celui-là qui sort en single. Et là, c'est un carton.
Et moi, je me souviens, je découvre ce groupe avec ce morceau, mais ça veut dire quoi, IAM ?
IAM, ça veut dire.
Alors, y a plusieurs, je suis.
Je suis,
c'est la traduction.
Alors après, il y a eu aussi Imperial Asiatic Men. Il y a eu Imperial Asiatic Men.
Les hommes
asiatiques impériaux.
D'accord, alors, why not?
Et il y avait, ou ailleurs, il y avait aussi Invasion.
Arrivant de Mars.
Arrivant de Mars, voilà, c'est les trois.
Chacun décidait un petit peu de. Voilà.
Mais c'est vrai qu'à la base, c'est vraiment Je suis.
Un autre groupe sort du lot début des années 90 dans le rap français, c'est le Ministère Amer. C'est quoi cette particularité à ce groupe ?
Alors là, on parle d'un groupe qui a vraiment fait beaucoup parler de lui parce que c'était un groupe qui était sans concession, qui avait des paroles quand même assez dures.
Pourquoi ? Parce qu'il dénonçait des problèmes de la société.
Ouais, il dénonçait les problèmes de la société. Il parlait beaucoup de la police. Et c'était pas, voilà, comme il disait à l'époque, ils étaient pas dans la dentelle, quoi.
Alors on vous présente Brigitte du Ministère Amer.
Deuxième coup, une autre femme pour le sacré. Cette fois-ci, elle s'appelle Brigitte, c'est la femme d'un flic, d'un policier, ok. Quand tard le soir, il patrouille.
Montez les grosses pouilles.
Alors là, je vais donner mon avis, c'est rare, mais ça, moi, ça me fait un peu mal aux oreilles. Mais, et ça n'a pas beaucoup plu non plus au ministre de l'Intérieur de l'époque.
Oui, à l'époque, Charles Pasqua, il n'avait pas aimé non plus, je crois. Ouais. Il voulait, alors pour l'histoire, il a demandé le retrait de l'album dans les bacs. Malheureusement pour lui, il a laissé passer un délai de prescription qui était de 3 mois. Et la plainte est arrivée un jour après. Donc du coup,
Le disque est resté dans les bacs.
Le disque est resté dans les bacs.
C'est clairement une charge contre la police. Hein, et il faut dire les choses comme elles sont.
Origine Fanophique, en fait, c'est l'histoire. Pour faire soft, c'était les ébats amoureux d'une femme avec son mari qui était policier, qui était violent. Voilà.
Et le mystère Hammer va être aussi connu parce qu'ils vont faire une des chansons de la BO d'un film culte des années 90.
Oui, qui va être le morceau le plus virulent aussi de cette BO, qui est la musique inspirée du film La Haine.
La Haine, le film de Mathieu Kassovitz.
Le titre parle de lui-même. Hein, le titre, ça s'appelait Sacrifice de poulet. Donc là, tout de suite, là par contre, là, c'est pareil. Hein, le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était Jean-Louis Debré, je crois, qui porte plainte. Et là par contre, le groupe va se faire condamner. Il va se faire condamner à 250 000 francs d'amende à l'époque. Et ça va signer un petit peu l'arrêt du groupe Ministère Hammer.
Mais ça, c'est dans la culture rap, ce type de morceaux ou ce type de groupe, il y en a toujours eu.
Il y en a toujours eu, mais il n'y a pas eu que ça dans le
bien
rap.
Bien sûr, il ne faut pas réduire le rap à ça. C'est d'ailleurs c'est pas ce qu'on fait ce soir.
Il y a eu des groupes, effectivement, qui ont eu des paroles assez dures. Il y a eu NTM qui l'a fait, Ministère Hammer, mais il y avait aussi d'autres groupes qui étaient comme toute l'écurie d'MC Solar qui avait un pendant plutôt cool, même Alliance Ethnique aussi qui a fait beaucoup parler de lui, qui était la tendance aussi joyeuse et sympathique du rap, quoi.
Alors tiens, justement, Alliance Ethnique, on va en parler dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
J'ai pris mon magnum, j'ai du mal à comprendre, elle m'a fait bouge de là.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Tu veux dire que la vie est dure, moi je me bats pour le futur, quelle aventure.
Simple, funky,
RTL. Petit frère peut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On rappe dans la curiosité, on vous raconte l'histoire de ce genre musical qui est né dans les années 90 et qui ne nous a plus jamais lâché les baskets, et tant mieux. On vous raconte l'âge d'or du rap français avec le journaliste Thomas Gettner. Vous publiez le rap français des années 90, hip-hop, c'est aux éditions Fedgen. On a parlé de tous ces rappeurs qui ont fait naître le rap en France. Il y a notamment évidemment l'un des pionniers, MC Solar, IAM, NTM, Ministère Hammer, mais il y a aussi ce que vous appelez le rap un peu joyeux, sympa, Alliance Ethnique. C'est quoi ce groupe ?
Alors Alliance Ethnique, c'était un collectif qui a été fondé à Creil par un rappeur qui s'appelait Kamel.
Donc en banlieue parisienne ?
Donc en banlieue parisienne. Donc c'était Kamel avec un autre rappeur qui s'appelait Médard. Il y avait 3 DJ aussi qui étaient dans le groupe, qui s'appelaient Crazy B, Faster J et Guts. Et donc ils ont bien cartonné aussi parce qu'ils avaient un rap qui était considéré à l'époque par tous les autres rappeurs d'un peu chamallow, un peu trop sympathique,
trop doux,
on va dire, trop doux. Mais c'est de constater que ça a bien marché. Il faut dire que c'était quand même très entraînant et que c'était bien produit, quoi.
Et Alliance Ethnique, c'était sympa comme ça.
Simple et funky, ça date de 1995. En fait, ils veulent quoi ? Ils veulent se démarquer, changer l'image qu'on disait tout à l'heure, le cliché parfois justifié du rap violent, anti-flic, etc.
Je ne sais pas s'ils voulaient se démarquer, ils avaient juste envie de faire ce genre de...
C'était la musique qu'ils avaient envie de faire.
Voilà, je pense que Kamel voulait, le rappeur principal de cette formation, c'est ce qui lui plaisait. Donc il a fait ça, il s'est pas posé de questions.
Et il y avait la place pour tout le monde dans le rap français ? Ou alors on se battait un peu, on se critiquait, on se trouvait un peu faible ou un peu trop rude.
Il y avait beaucoup de compétitions dans la française, mais c'était une compétition qui était saine puisque c'était une compétition artistique, quoi. Fallait toujours faire mieux que l'autre, mais dans les règles de l'art, quoi. Fallait faire des rimes mieux que son adversaire, mais c'était purement artistique.
Il n'y avait pas la violence du rap américain, parce que
non, on n'avait pas jusque là quand même. Ouais, c'est vrai que le rap américain à l'époque c'était autre chose. Il y avait des gangs, mais le rap français, sûr, il y a eu quelques violences, mais ça n'en est pas arrivé jusque-là. C'était de la compétition artistique, surtout en France, dans les années 90.
Et puis un jour débarque un ovni, c'est Doc Génico. Pourquoi c'est un ovni dans ce paysage pourtant très divers?
C'est un ovni déjà parce que c'est, quand on écoute son album, c'est quand même un rappeur qui se met à chanter, qui aborde des sujets assez crus, notamment le sexe. Et c'est aussi un rappeur qui va enregistrer tout son album aux États-Unis, à Los Angeles, avec de vrais musiciens, avec une vraie batterie, une vraie basse, avec des... avec un son chaleureux, un peu G-funk de la côte ouest. Et voilà, donc...
côte ouest américaine, hein, pas la Bretagne.
Non, pas la Bretagne.
Son premier album, c'est Première Consultation, c'est ça?
Voilà, c'est Première Consultation. Ouais. Ça va être un carton aussi, puisqu'il va frôler le million d'exemplaires. Et avec des titres que tout le monde connaît, dont Viens voir le docteur, je pense.
Et bah le voilà, le docteur.
Tu rêves d'être Brenda, d'avoir ton Dylan et d'insulter ton papa. Tu viens d'avoir 15 ans. Intéressant. Ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. Mais si tu acceptes ces conditions, on jouera à des jeux polissons. Tu seras...
Doc Génico, Viens voir le docteur. Ça accueille comment cette chanson?
Bah plutôt bien, je pense que ça a surpris tout le monde, mais aussi ça, je pense que ça a charmé aussi le grand public en général. Ça changeait, c'était mélodieux, les paroles aujourd'hui étaient un peu crues, mais avec une certaine légèreté, c'était bien amené.
C'est lui qui écrivait?
Oui, c'est lui qui a écrit. D'après ce que j'ai vu, je pense qu'il s'est fait un peu aider aussi. Hein, mais oui, voilà, c'était bien vu, quoi. C'était léger.
La carrière de Doc Gynéco, elle a subi un coup d'arrêt en 2007 quand il a soutenu Nicolas Sarkozy. Comment il s'est retrouvé dans l'environnement du futur président de la République?
Hein, ça, il faudrait lui poser une question à lui, parce que même moi, je n'ai pas compris pourquoi il s'est mis à soutenir Nicolas Sarkozy. Après, c'est son...
Oui.
Il a le droit, hein. Pourquoi pas? Quand on fait du rap et qu'on soutient Nicolas Sarkozy qui représentait ce qu'il représentait, du coup...
Aussi un bad boy, Nicolas Sarkozy.
Oui, on peut voir ça comme ça.
Quand on y pense.
Mais Nicolas Sarkozy, il a un fils qui...
Qui à l'époque, qui continue, mais qui produisait du rap, qui faisait des petits instruments dans son coin. Et je crois que Doc Gynéco, d'ailleurs, a enregistré un album avec lui.
Mais alors, est-ce que c'est vraiment parce qu'il a côtoyé Nicolas Sarkozy qui fait plus de musique, ou c'est qu'il est peut-être plus inspiré ou...
Là, il est revenu quand même, Doc Gynéco, mais c'est vrai que ça a mis un coup d'arrêt quand même à sa crédibilité, quoi.
Vous disiez l'âge d'or, c'est la décennie 90 jusqu'en 98. Pourquoi? Parce que après ça se vend moins bien.
On va dire qu'après, oui, ça se vend un peu moins bien. 98, c'est un peu aussi une date référence. C'était la Coupe du Monde de foot où tout le monde était joyeux, où il y a eu c'est en fait l'année où il y a eu les derniers albums qui ont vraiment fait des grosses ventes, notamment Oxmo Puccino qui arrive en 98 avec Opéra Puccino qui fait partie aussi du panthéon du rap français. Voilà, après c'est vrai qu'il y a eu ça s'est poursuivi un peu avec du rap alternatif, avec des groupes comme Club des Losers, TTC, qui ont fait des très bons albums, et après ça s'est essoufflé. Après on est passé à autre chose avec des Booba,
Est-ce qu'on peut dire que Maître Gims c'est un rappeur?
On peut le dire, oui. Je pense qu'on peut dire qu'il fait du rap. Après,
pour vous aujourd'hui, Thomas Gadner, c'est qui le meilleur rappeur, l'un des meilleurs rappeurs?
Je vais être un peu subjectif.
C'est ce qu'on vous demande. Tiens.
De toute façon, avec une question comme celle-là, il faut être subjectif.
Voilà, je vais pas me faire que des amis, notamment les fans de PNL et autres groupes de rap. Moi, je pense que c'est Nekfeu, sans hésiter, qui est un jeune rappeur qui maîtrise parfaitement ce qu'est le hip-hop. En fait, il a très bien compris, il a très bien assimilé. On sent qu'il a bien écouté ce qui se faisait avant et qu'il a réussi à apporter de la modernité au rap.
Nous aussi, on va l'écouter.
Allez, Nekfeu.
Pas une vie persée, même si j'ai percé, j'aperçois des personnes derrière les persiennes, seul dans mon appart sale. Ma sœur révise en partiel, y'a pas de coin partial à part le ciel. Je suis entouré de zonards sur le sonar, mais c'est trop tard quand les ennuis sont là. Les accusés sont sur le banc et transpirent comme au sauna. Les mères pleurent comme Solar, t'es jamais à l'abri. Le mal me l'a appris, l'âme l'a pris. Une maman prie, pourquoi tu me l'as pris? Oh Dieu, c'est pas le ciel, c'est les hommes. Oh
Tempête
Dieu.
De Nekfeu. Il a quel âge, Nekfeu?
J'ai vu le seum donner du sale.
C'est une bonne question. Il est pas très vieux, je pense qu'il doit avoir 25 ans, 22 ans, 23 ans. Enfin, il doit aller à la vingtaine, quoi.
Il y a du slam, on dirait, un petit peu dedans aussi. Il y a de la,
ouais,
la poésie.
Le slam, moi, c'est un courant musical qui a pas tellement vécu en France. Hein. Enfin, pour être honnête, le slam, c'était quoi? C'était Abdelmalik qui est encore malade.
Ah oui,
voilà.
C'est déjà énorme.
Mais ça n'a pas survécu en France.
Il n'y a personne qui a repris le flambeau. Pardon, mais je peux pas passer à côté du rap des inconnus aussi.
Autonne, y passe, c'est pas du gâteau. Autonne, y passe, tel est notre ghetto. Eh mec, nous sommes tous les produits d'une société économique dépendante des fluctuations boursières qui déstabilisent le marché.
Oui, mec.
Et pour sortir de ce carcan économique capitaliste, il faut savoir dire non, 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 mec.
Ah, j'ai peur, ces inconnus, vous rappelez, oh, les bad boys aussi.
D'ailleurs, Thomas Gattner n'avait pas tout à fait mis dans son âge d'or du rap français.
Hein. C'était un petit cadeau de notre part.
On l'a fait à votre place, c'est gentil.
Merci infiniment, Thomas Gattner. C'était un plaisir de vous avoir au micro de la curiosité. On peut lire toute cette histoire, cet âge d'or du rap français des années 90. C'est publié chez Fedgen.
Vous écoutez RTL.